célèbre affaire. Hein. J'avais vraiment le sentiment ce matin, je vous l'ai déjà dit, de n'avoir fait qu'effleurer le bord des voies de Dieu et de ne vous en avoir donné qu'un faible murmure, comme nous le dit Job dans les chapitres où c'est Élihu qui parle, il dit combien faible est le murmure que nous avons entendu. Ce sont les bords de tes voies. Et nous avons fait que suivre les bords des voies de Dieu en étudiant ce livre de Ruth. Mais je veux croire que ce simple murmure que vous avez entendu vous donnera le goût de relire ce livre et de prier beaucoup pour que Dieu vous donne de comprendre tout ce qu'il veut encore vous enseigner. Et là, je vous inviterai à lire le chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens qui vous donne le secret qu'il faut posséder pour comprendre les Écritures. Je lis au verset 9 du chapitre 2. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Quand vous lisez la première fois, vous ne voyez pas ça. Hein. Ce sont des choses, peut-être même ce que vous avez entendu, que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Vous vous êtes dit, mais j'ai jamais pensé qu'il y avait tant de richesses dans ces passages, dans ces pages de Ruth. Et ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce n'est pas de mon invention, ça. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et vraiment, on peut dire qu'il avait préparé quelque chose pour qui ? Pour Ruth. Pour quelle raison ? Parce qu'elle l'aimait. Sans encore bien le connaître. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Si vous voulez vraiment la révélation de toutes les pages de la Bible, c'est par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. C'est pourquoi nous n'enseignons pas comme le monde, qui dit, oh, l'histoire de Ruth, on ne sait pas même si ça s'est passé. C'est un conte, c'est une fable. Voilà ce que même des théologiens nous disent. C'est un beau poème. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous voulons croire que vous avez reçu une bénédiction. Et nous en parlons, non avec des discours, et que Dieu me préserve de vous faire des discours, qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Quand on se tient devant Dieu et que l'on prie pour recevoir ce que Dieu a à nous dire. Mais j'entendais quelqu'un qui disait, oh, ne faites pas ça, allez vous reposer. Vous croyez que je me repose là-haut? Il y en a qui pensent que je suis là-haut pour me reposer. De temps en temps, quand mon dos ne tient plus, bien sûr, je m'étends un instant. Mais je ne suis pas là-haut pour me reposer. Un camp, il se construit dans la prière. Et j'étais si heureux de savoir qu'il y avait des personnes qui priaient, même ensemble, pour ce camp et pour ceux qui en ont les responsabilités, que ce soit Muriel à la cuisine, qui avait vraiment besoin des prières aussi, et que ce soit ma femme qui est à la tâche et qui pense au bien de tous, jour et nuit, et qui, si elle descend encore là-bas, c'est au fond pour que rien n'arrive, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas d'épidémie. Alors comprenez cela. Et si on a une certaine discipline, bien c'est parce que on vous aime. Parce que là où il n'y a pas de discipline, j'y étais dans certains camps, on laisse un sac de chaux-vives ouvertes. Et il y a des gamins. Ben, qu'est-ce qui arrive? Quand j'ai fait la tournée, je n'avais pas de responsabilité matérielle, j'avais seulement la responsabilité spirituelle, mais j'ai dit, mais c'est de la folie. Parce qu'un gosse passe, il prend ça, puis il le jette à son copain, sans se rendre compte qu'il va rendre aveugle quelqu'un. Ben, c'est ce qui est arrivé au fils de notre ménager, de Gérard, en ville, au cap de la Madeleine. Et il y avait de la chaux-vive ouverte, et un enfant a jeté à son camarade. Et il a perdu la vue d'un œil, en tout cas. C'est pas drôle. Hein? Donc, vous voyez, au camp, on doit toujours veiller, parce que Satan rôde autour du camp. Mais le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Et quand on craint le Seigneur, il nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence, il nous montre ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Alors, vous voyez, ce n'est pas des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, en revenant dans le chapitre 4 de Ruth, vous avez remarqué que, à la fin du chapitre 4, quand Obed est né de la relation de Boaz et de Ruth, donc on l'a appelé Obed, qui veut dire servir. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et le verset 22, le dernier verset, Obed engendra Isaïe. Toute cette histoire nous est racontée pour qu'on sache d'où venait David et qui allait être appelé le fils de David? Jésus. On m'a demandé pourquoi je vous avais lu cette longue généalogie hier soir. C'est vrai que j'aurais pu ne pas vous ennuyer avec cette généalogie. Mais peu importe si je vous ai ennuyé. Je voulais que vous soyez bien sûr que Jésus venait de David, le fils de David. Et je ne veux pas vous assassiner avec des versets bibliques, mais si vous relisez les évangiles, comment l'appelait-on souvent? Comment le peuple appelait Jésus quand il criait vers lui? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il était connu comme le fils de David. Vous ne pouvez pas lire les évangiles sans y rencontrer cette expression « Jésus, fils de David ». Et ici, Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Et puis la suite, eh bien, vous l'avez dans l'évangile. C'est le fils de David qui est né à ce Bethléem. Et vous voyez, au fond, toute cette histoire qui est centrée sur Bethléem, ça vous dit quelque chose. C'est là que devait naître, selon Michée, le Sauveur. bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, c'est de là que naîtra celui qui devait délivrer Israël. Alors voyez l'ensemble des Écritures. Et je voudrais encore vous faire remarquer quelque chose. Dans les premiers chapitres de la Genèse, qu'est-ce que vous trouvez? Un mariage, hein? Vous y avez déjà pensé? Qui est-ce qui a béni ce mariage? Qui est-ce qui a présidé à ce mariage? Dieu. L'amour, l'union complète, elle est représentée dès les premières pages de la Bible par un mariage. Il y a Adam et il y a Ève. Et qui est-ce qui a trouvé Ève pour Adam, qui avait cherché parmi toutes les créatures et qui n'avait pas trouvé un être qui lui corresponde? On peut chercher, hein. Il y en a beaucoup d'hommes qui cherchent. Mais ils trouveront, oui, mais l'homme animal. Tandis que s'ils s'attendent à Dieu, ils peuvent savoir que la femme qu'ils épousent, s'ils ont vraiment le désir d'être bénis, c'est Dieu qui la leur envoie. Et j'aime beaucoup cette expression. Donc Dieu a créé Ève et il la lui amena. C'est lui. Alors, Adam reçoit sa femme des mains de Dieu. Alors, il ne va pas la traiter n'importe comment. C'est un cadeau de Dieu. Et un jour, il devra la rendre à Dieu. Donc, l'amour conjugal, dès les premières pages de la Bible, nous est présenté sous cette forme-là. Un mariage. Ce n'est pas un partenaire. C'est l'homme et la femme que Dieu a créé et qu'il a mis ensemble. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Maintenant, allez dans les dernières pages de la Bible. L'Apocalypse, qu'est-ce que vous trouvez? L'esprit et l'épouse disent « viens ». Que celui qui entend dise « viens ». Et qu'est-ce que vous trouvez? Les noces de l'agneau. Donc, de nouveau, vous voyez qu'à la fin de la Bible, l'union conjugale, l'union est l'amour, le vrai amour est représenté par l'union conjugale. Et puis au milieu de la Bible, qu'est-ce que vous trouvez? Le cantique des cantiques. Donc, qui vous montre, au fond, cette relation de l'homme et de la femme qui sont unis entièrement. Donc, à travers toute la Bible, l'amour est représenté par l'union conjugale, qui est dévaluée dans ces derniers temps. Et si vous lisez les épîtres, ce que Paul dit, après avoir entendu Jésus parlant du divorce, dire « au commencement, il n'en était pas ainsi ». Et il cite Genèse, chapitre 2, les paroles qu'Adam prononce en disant, quand il voit Ève, cette fois celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Il est ajouté, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, l'amour familial n'est pas l'expression de l'amour total. Il y a un amour plus grand que l'amour familial. Oui, on aime son père et sa mère. Mais il y a un moment où il est dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ça, c'est le mariage. On respecte toujours le père et la mère, mais il y a un moment où l'on s'en sépare pour fonder un foyer. Et puis, il est dit, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Et où voyez-vous une seule chair? C'est dans l'enfant. L'enfant manifeste qu'il y a eu vraiment une seule chair. Il est fait de la chair du Père et de la Mère. Vous avez tous ces principes dans les premières pages de la Genèse. Et si vous lisez les prophètes ou Ésaïe, Jérémie, tout cela, eh bien, c'est toujours la relation d'Israël et de Dieu, du peuple de Dieu, est toujours comparée à une relation conjugale. C'est vrai ou c'est faux? Et toute infidélité est comparée à un adultère. L'infidélité du peuple envers son Dieu, c'est considéré comme un adultère ou comme une prostitution. Et maintenant, quand Paul parle de l'Église, après avoir parlé d'Israël, il emploie aussi les mêmes expressions dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Il dit ceci, verset 22, « Femmes, chapitre 5, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. » Et vous retrouvez là, « Lave-toi » de Ruth. L'eau de la parole nous lave pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Si on peut, on pourrait continuer. Mais c'est pour vous montrer que ce qui illustre vraiment l'amour de l'âme à son Dieu, ou l'amour du peuple à son Dieu, ou l'amour de l'Église à son Dieu, c'est toujours l'image de l'amour conjugal. Et alors, au point de vue prophétique, qu'est-ce que nous pouvons trouver dans ce livre de Ruth? Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. On a vu dans le dernier verset du livre des Juges, que c'était un temps de déclin. Il n'y avait point de roi, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Ce temps-là, qui a été manifesté en Israël, on peut dire que dans l'Église aussi, il y a des clins. Ce qui s'est passé pour Israël se passe aussi pour l'Église. Mais prenons Israël. Est-ce que c'est un peuple remarquable que Dieu a choisi pour être son peuple? Relisez le Deutéronome, c'était le plus petit des peuples. Mais Dieu a choisi Abraham, c'est le choix de Dieu, pour être son représentant sur la terre, et il confie à cette race d'Abraham de présenter dans un monde païen la révélation du vrai Dieu. Dieu a choisi un homme auquel il a fait une promesse, cet homme aurait un fils et puis posséderait un pays. Et tout ça s'est réalisé d'une façon merveilleuse, mais par de grandes épreuves. Le peuple a été soudé dans l'épreuve de l'Égypte, mais quand le temps est venu, Dieu a suscité Moïse pour sortir le peuple de l'Égypte. Mais ces 12 tribus maintenant formaient un seul peuple. C'était le peuple d'Israël. Et Dieu donne à Moïse et à ce peuple la révélation de la loi, la révélation de sa volonté. Et lui demande d'être au milieu des nations païennes que le Seigneur a laissées suivre leur conscience. Alors, quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a, dans l'Ancien Testament, le monde est divisé en deux. Il y a un peuple qui s'appelle le peuple de Dieu, c'est Israël. Puis il y a les nations qui ont leur Dieu et que Dieu laisse, mais qu'il laisse sans les abandonner, puisque Paul dira aux païens, lorsqu'il évangélise, Dieu ne vous a pas laissé sans témoignage, il vous a fait du bien, vous donnant des saisons fertiles, et remplissant vos cœurs de joie. Dieu m'aime aussi les païens. Et si les païens ont eu certaines bénédictions, ça venait d'où? Ça venait de Dieu. Et puis, ils avaient pour guide, quoi? Leur conscience. Mais la conscience n'est pas un guide sûr. Et les juifs, eux, ils avaient pour guide, quoi? Leur conscience et la loi. Ils étaient favorisés. Mais donc, ils devaient témoigner. Or, s'ils étaient fidèles dans leur témoignage, qu'est-ce qui leur arriverait? La bénédiction. Lisez ça dans le chapitre 28 du Deutéronome. Mais s'ils étaient infidèles, qu'est-ce qui leur arriverait? La malédiction. Sur toute la ligne. Or, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que le peuple d'Israël a été fidèle? Non. Il a été infidèle. Et l'infidélité conduit à la ruine. Pourtant, Dieu a manifesté sa bonté envers ce peuple. Le peuple n'a pas rendu témoignage. Et qu'est-ce qui est arrivé? Alors qu'ils étaient 12 tribus, quand on ne vit pas vraiment d'une manière agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il arrive à un peuple? Il y a la division. Le péché dans un peuple amène toujours la division. Et le royaume du nord, donc les 10 tribus, se sont séparées des 2 tribus. À cause de quoi? Des péchés de Salomon. Le péché de Salomon qui a pourtant donné des enseignements merveilleux, mais il n'a pas vécu ce qu'il prêchait, ce qu'il avait prêché. Et c'est sous le règne de son fils, Roboam, qui a eu la séparation. Et alors, il y a eu le royaume des 2 tribus, Juda et Benjamin, avec comme capitale Jérusalem. Puis les 10 tribus ont pris comme capitale Samarie. Et ils ont formé, eux, leur culte. Alors, c'était un mélange de paganisme et de ce qu'ils connaissaient du judaïsme. Et ça a donné les Samaritains, en finale. Et qu'est-ce qui est arrivé aux 10 tribus? Elles ont été emmenées en captivité. Et cela, le peuple de Jérusalem a vu cela. C'était un exemple. Pour eux, Dieu les appelait à se convertir, à revenir au principe de Moïse. Et qu'est-ce que Jérusalem a fait? Si vous lisez l'Écriture, les prophètes, ils ont fait pire que ce qui se faisait à Samarie. Alors, la patience de Dieu a eu son terme, et alors qu'on disait, mais ce n'est pas possible que Jérusalem soit détruite. Pourquoi? Parce que nous avons le temple. Et Jérémie leur disait, ne dites pas que c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Parce que, allez regarder à Silo où était le tabernacle, une fois qu'ils étaient entrés en Israël. Et ce que j'ai fait de Silo, quand j'ai vu ce qui se passait à cause d'Élie, qui laissait ses fils faire n'importe quoi, pécher devant le Seigneur, j'ai détruit Silo. Donc ne mettez pas votre confiance dans des paroles de mensonge disant, nous avons la bonne religion, nous avons le temple de l'Éternel. Ce que Dieu veut, c'est des cœurs. Et s'il n'y a pas ce cœur, eh bien, ce sera la captivité. Et Jérusalem a fait pire que les dix tribus d'Israël. Et il y a eu la captivité, la ville a été détruite, le temple a été détruit, tout a été ruiné et conduit donc en captivité à Babylone. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, quand il doit manifester sa sainteté, il ne peut pas s'empêcher de faire une promesse de grâce. Et il dit que, par la bouche de Jérémie, qu'après 70 ans, il visiterait le peuple en captivité et le ferait remonter à Jérusalem. Et que le temple serait rebâti. Mais pour accomplir son œuvre, qu'est-ce que Dieu va employer pour réveiller les captifs du judaïsme qui se trouve à Babylone? Qu'est-ce qu'il va employer? Un païen, un roi, qui s'appelle comment? Cyrus. Et c'était dit longtemps à l'avance hein, que Dieu susciterait Cyrus, un roi païen, qui a dû lire ses écrits et voir que son nom est mentionné et que lui accomplirait toute la volonté de Dieu en faisant remonter les captifs des Juifs. Alors, il fait un décret. Qui d'entre vous est de son peuple? Est-ce que vous êtes encore de son peuple? Qui d'entre vous est de son peuple? Qu'il remonte à Jérusalem. Et il donne tous les moyens pour que le peuple puisse remonter. Et Dieu suscite quelques hommes, des prophètes, Zacharie et Agée, qui sont employés pour le réveil du peuple. Et ils montent donc à Jérusalem, et là ils se mettent à rebâtir le temple. Tout cela, nous l'avons déjà examiné dans des retraites à Châteauguay. Hein. Le réveil commence par, quand ils sont revenus de la captivité, ils remettent l'autel sur ses bases. La maison sur son fondement est la troisième volet, les murailles sur leur emplacement. Tout cela, nous l'avons déjà expliqué et vu, et c'est aussi sur des cassettes. Eh bien, donc la parole s'est accomplie. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur les a fait remonter de la captivité? C'est parce que le temps s'accomplissait où le fils de David devait naître. Où devait-il naître? En Israël. Mais ce n'était plus Babylone, ce n'était plus les Mèdes et les Perses, ce n'était plus les Grecs, c'était qui occupait la Terre Sainte? C'était les Romains, mais toujours des païens, c'était les Romains. Alors, les Romains donc gouvernaient la Terre Sainte, mais le peuple était toujours divisé en deux. Il y avait les Juifs qui étaient remontés, et puis il y avait les païens. Les Juifs qui prétendaient suivre la loi, et puis les païens qui suivaient leur conscience. Et alors voilà que Jésus vient naître, fils de David, au milieu d'eux. C'est l'heure, c'est le temps de Dieu. Ce qu'il a promis 4000 ans plus tôt, il l'accomplit. Jésus est là. Alors, est-ce qu'il va être reconnu par son peuple? Quand les mages d'Orient viennent à Jérusalem, la ville est entièrement troublée et on se pose des questions. Où est le roi des Juifs? Alors, pour savoir où il devait naître, qu'est-ce qu'on consulte? Les Écritures. Les scribes peuvent dire, il doit naître à Bethléem. Alors, Hérode signale la chose aux mages, leur dit d'aller le voir et de revenir lui faire un rapport parce que lui aussi veut l'adorer alors qu'il voudrait le tuer. Parce que si Jésus est le roi, lui est mis de côté. Vous comprenez? Alors, les mages adorent le Seigneur, ce qui montre que Dieu aime toujours les païens, malgré tout. Les mages venaient du paganisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a pleinement manifesté qu'il était non seulement le Fils de Dieu, mais le fils de David. Il est venu chez les siens, c'est-à-dire les Juifs. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alors, les Juifs qui avaient la loi, quand ils ont vu quelqu'un qui vivait vraiment la loi, ils ont été jaloux. Et Jésus est devenu un gêneur, parce que eux, au fond, comme on l'a vu, ils avaient la forme de la piété. C'était la balle, hein, mais c'était pas le grain. Et Jésus est venu comme étant le grain. Si le grain de blé ne meurt. Tandis que les Juifs n'avaient plus que la forme de la piété, même les pharisiens. Les pharisiens qui étaient la secte la plus exacte, qui suivait la tradition des pères, mais il n'y avait pas vraiment la vie. Et alors, ceux qui ont vu quelqu'un vivre pleinement la loi, eh bien, ils n'ont pas pu supporter, et ils se sont mis d'accord avec les Sadducéens qui niaient l'Esprit, qui niaient la résurrection. Tous ces milieux religieux se sont mis ensemble, et puis ils ont voulu crucifier, faire mourir le seul qui avait accompli la loi. De sorte que nous voyons là la faillite de la loi. Et puis, alors, ceux qui avaient la loi, que Jésus avait rendu grande et honorable, prennent le seul qui l'a accompli et le livrent à qui ? Aux Romains. Et le Romain, Pilate, qu'est-ce qu'il a pour le conduire ? La conscience. Les païens ont leur conscience. Et la conscience de Pilate a parlé fort. Hein. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa conscience ? Cet homme n'a commis aucun crime. Et sa femme lui a communiqué aussi un message qu'elle avait reçu dans son sommeil, dans un rêve, mais rien à faire avec ce juste. Donc Pilate a été pleinement averti. Sa conscience criait qu'on l'avait livré par envie. Que les témoins étaient de faux témoins, tout cela, eh bien, c'était dit. Et Pilate, quand on lui a dit, si tu relâches Jésus, tu n'es pas un ami de César. La crainte l'a saisi, la crainte des hommes, la servilité, quand il a entendu cela, eh bien, il a dit, apportez-moi de l'eau, puis il s'est lavé les mains, comme si on peut se laver les mains quand on commet un crime. Il avait dit, j'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai le pouvoir de te crucifier. Et qu'est-ce que Jésus répondait ? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. Qu'est-ce qui se passait là à Jérusalem ? C'était l'œuvre qui allait racheter l'humanité. Ce n'était pas par l'argent et l'or que les hommes pouvaient être rachetés, mais par le sang précieux de Jésus. Mais ce Jésus qui venait chez les siens, qui n'était pas reçu, qui était crucifié par les siens, il a pleuré en entrant à Jérusalem, dans la semaine où il était livré, quand il a pensé à ce qui allait arriver à ce peuple. Ce peuple, au lieu de le recevoir, de l'acclamer comme roi, ils ont crié « Hôte, hôte, crucifie-le, crucifie-le ». Et Jésus voit déjà les armées romaines qui viendront pour détruire à nouveau cette ville qui avait déjà été détruite par Nebuchadnezzar, hein, eh bien, elle serait à nouveau détruite. Et là, on nous dit qu'il y a au moins 20 destructions de ce qui a été Jérusalem, et c'est tout entassé les uns sur les autres. On retrouve, quand on fait les fouilles, tout cela. Eh bien, quelle histoire, cette histoire de Jérusalem. Jésus a été crucifié. Jésus a été rejeté. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous, nous voulons César. Bien oui, César. Et César a détruit, et ça a été la dispersion parmi les gentils. Et Israël a cessé d'être un État à ce moment-là. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit, a annoncé par les prophètes ? Il a annoncé qu'il y aurait un reste. Et qu'un jour, ce peuple serait à nouveau visité et reviendrait dans ses terres après une longue dispersion et toute espèce d'épreuve. Voilà les grandes lignes. Et qui a été le dernier prophète en Israël? Parce que d'où venaient les prophéties? D'où venaient tous ces messages? D'où venait la révélation? De quel peuple? Du peuple juif. Vous ne pouvez pas nier cela. C'était du peuple juif. Et maintenant, eh bien, enfin, pendant tous ces siècles, il n'y a plus de prophète. Jean-Baptiste a été le dernier. Hein, et on ne reçoit pas d'Israël directement. Il n'y a pas d'homme d'Israël. Il y a des juifs qui se convertissent au Seigneur. Hein, mais il n'y a plus, ce n'est plus le peuple qui est employé. Il a été mis de côté. Mais notez bien ça. Alors il faudrait lire le chapitre 9, 10 et 11 des Romains pour bien comprendre que ce peuple dont nous avons tant reçu, ce peuple qui est le peuple du Messie, on va quand même lire cela. Et après, vous allez comprendre très simplement et très rapidement tout ce que nous avons vu en Élimélec. Ce que représente Élimélec, qui, à cause d'une infidélité, est parti dans le pays de Moab et est mort, eh bien, il y a eu comme une mort pour Israël, pour les Juifs. Et quelle mort! Mais avec Obed, c'est qui? C'est le successeur d'Élimélec, hein? C'est le fils de Naomi, il en reste, il est ressuscité, en quelque sorte. Et un jour, les Juifs se convertiront et retrouveront l'héritage. Il y a des choses absolument merveilleuses, mais il faudrait du temps, et puis lire surtout la parole. Mais nous lisons quand même quelques versets dans les Romains, qui vous montre bien que c'est une mise à l'écart, c'est pas un rejet total. Je dis la vérité en Christ, c'est Paul qui parle, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Qui sont ses parents selon la chair? Ce sont les Juifs, qui sont israélites. À qui appartiennent, il n'a pas dit à qui appartenait, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, deuxièmement, quoi, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ. Est-ce qu'on peut être disciple du Christ et antisémite? C'est pas possible. Hein. Et pourtant, l'Allemagne, qui était un pays moitié protestant, moitié catholique, a été antisémite, hein, au point, sous le gouvernement nazi, d'exterminer 6 millions de juifs. La Shoah, l'Holocauste, comme on l'appelait avant. Mais tout cela, c'était prédit. Le tiers, au fond, de la population juive a été exterminée. Ce n'est point à dire que la parole, verset 6, de Dieu soit restée sans effet, car ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Pour être enfant d'Abraham, il ne suffit pas d'être juif, il faut croire à la parole. Alors on devient, comme on l'a vu dans les matinées, aussi enfant d'Abraham. Mais il est dit, en Isaac, tu seras nommé pour toi une postérité. Mais après. Alors, ce que nous apprenons avec le chapitre 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Je veux que vous ayez la parole et non pas mes idées. Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, il l'a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul je suis resté, et il cherche à m'ôter la vie. » Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il ? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. » De même, aussi, dans le temps présent, il reste, selon l'élection, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Puis on pourrait continuer, vous pouvez continuer cette lecture. Dieu n'a pas fini avec Israël. Et maintenant, j'en reviens à Élimélec. Élimélec a manqué en quittant son pays. Mais lui a disparu, lui est mort, ses fils aussi sont morts. Mais qu'est-ce qui est resté ? Il y a eu un reste, hein ? Naomi, n'est-ce pas ? Qui est remontée. Mais, qu'est-ce qui est apparu après le rejet du Christ par les Juifs ? Qu'est-ce qui est né à la Pentecôte ? L'Église. Le Saint-Esprit a été donné et a formé un nouveau peuple. Alors, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, le monde est divisé en deux. Il y a Israël et les nations païennes. Dans le Nouveau Testament, vous voyez surgir un troisième peuple. Il y a Israël, il y a toujours les Juifs, hein. Il y a les nations païennes, mais l'Évangile étant annoncé aussi bien aux Juifs qu'aux nations, ça a commencé par les Juifs qui se sont convertis le jour de la Pentecôte, et puis ils sont allés apporter l'Évangile aux nations, et c'est là qu'est née l'Église. De sorte que le troisième peuple, c'est l'Église de Dieu. Et vous avez cela, c'est pas moi qui l'invente, 1 Corinthiens chapitre 10, c'est là que vous voyez que vous devez connaître toute la Bible pour avoir une vision vraiment prophétique de ces choses. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, chérie. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs. Les Grecs, ce sont les païens. Ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Voilà. Dans le Nouveau Testament, vous voyez un nouveau peuple qui est l'Église de Dieu, qui est donc composée ou de Juifs qui sont sortis du judaïsme et qui se sont convertis comme l'apôtre Paul, ou alors des païens qui, comme le nuque d'Éthiopie, a entendu les Écritures. Mais on peut toujours dire que le salut vient d'où ? Il vient des Juifs. Nous leur devons beaucoup. Tout l'Ancien Testament, toute la parole, tout ce qui nous enrichit vient des Juifs. Alors, nous nous en souvenons. Mais il était dit qu'il y aurait des clés parmi les Juifs. Mais est-ce que c'est pour toujours ? Et au sujet de l'Église maintenant, comment est présentée l'Église ? Dans les débuts, l'Église primitive, c'était quelque chose de merveilleux. Hein? Mais quand vous lisez l'Apocalypse et que vous trouvez l'histoire de cette Église, qu'est-ce qui vous est manifesté ? Est-ce que l'Église a été fidèle ? Non. Déjà à Éphèse, qui avait beaucoup reçu, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Tu as abandonné ton premier amour. Qui était arrivé en Israël, au début, n'est-ce pas, Israël marchait avec le Seigneur, il chantait les cantiques, après la délivrance de la mer Rouge, c'était quelque chose de merveilleux. Hein. Mais après, ils ont commencé à murmurer. Et puis, dans l'Église, eh bien, vous avez d'abord Éphèse, le premier amour n'est plus, n'a plus la même force, et le Seigneur le leur reproche. Puis à Smyrne, c'est le temps des persécutions. Mais dans un temps de persécution, l'Église est beaucoup plus fidèle, plus vivante. Et alors, le Seigneur leur dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je t'aime. Qui, au lieu de persécuter, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, les chrétiens, les gens qui portaient le nom de Christ, il impose la religion chrétienne à tous ses états. Est-ce que cela, ça fait des chrétiens? Non. C'était le grand drame. Et même, j'ai entendu des auteurs catholiques souligner cela, que l'Église a dévié avec Constantin. Elle est devenue une puissance mondiale et terrestre. Et puis alors, l'infidélité y est entrée, et avec l'infidélité, la fausse doctrine que vous avez dans Thyatire, mais il y a toujours un reste. Et puis, il y a ceux qui, à Thyatire, n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Eh bien, dans toutes les églises, il y a des fidèles, malgré tout. Mais ce que le Seigneur veut, c'est la repentance. Après les écarts de l'Église romaine, il y a eu un réveil par quoi? Par les réformateurs, qui étaient tous des catholiques. Luther était un catholique, c'était un moine, n'est-ce pas? Et il souffrait tellement de ce qu'il voyait et de ce qu'on faisait dans l'Église. Soi-disant pour racheter les péchés, on avait des indulgences, hein, et puis on payait son salut, et l'Église s'enrichissait. Pour quelle raison est-ce qu'ils avaient besoin d'argent? Parce qu'ils voulaient construire quoi? Les cathédrales. Et alors, il y avait en même temps la persécution des Juifs. On leur prenait leurs biens parce qu'on disait ils ont crucifié le Messie. C'est les Juifs qui étaient répartis un peu partout, mais qui restaient quand même des gens très intelligents et entreprenants, mais qui n'étaient plus un peuple uni. C'était des personnes dispersées. Est-ce que ça allait durer toujours? Alors voilà, l'Église réveillée par les réformateurs, mais ensuite, après les réformateurs, eh bien, quand on n'a plus persécuté ce qu'on appelait les protestants, des catholiques qui protestent au nom de la vérité, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, dans le protestantisme, on a commencé à nier les vérités essentielles concernant la personne de Christ. On a dit que Jésus était un grand homme, enfin qu'il n'était pas le Fils de Dieu. On a nié qu'il était né de la Vierge Marie, etc. Et c'est pourquoi, chez beaucoup de catholiques, il y a encore cette idée que les protestants ne veulent rien savoir de Marie. Et c'est pour cela aussi que j'ai été poussé, bien avant Vatican II, d'écrire ce livre, que vous pouvez encore avoir là, Les leçons de Marie, mère de Jésus, pour remettre les choses au point. Ce n'est pas parce que l'Église romaine a erré en donnant à Marie la place qui n'appartenait qu'à qui? Qu'à Jésus-Christ, hein, qu'à Dieu. Eh bien, que nous devions négliger tout ce que Marie avait pu faire. Et j'étais souvent peiné de voir que dans les réunions, on parlait de toutes les femmes bibliques, hein, sauf de Marie. Alors qu'elle est un exemple pour nous, un exemple merveilleux, et qu'elle nous présente ce qu'est une vraie nouvelle naissance. Elle a cru. Elle a risqué la mort. Elle nous a donné le Sauveur en tant qu'homme. Et nous y croyons. Et alors, après cela, quand le protestantisme, il n'y avait pour ainsi dire plus rien dans le protestantisme, il y a eu le réveil au 18e, 19e siècle, et Dieu a suscité dans le monde entier des hommes qui sont revenus à la Bible et auxquels il a donné des lumières, en particulier, quelle lumière? Celle du retour de Jésus-Christ, de la venue de Jésus-Christ, et se sont mis à lire la Bible. Et il y a eu un réveil merveilleux, et on pense bien que c'est là ce qui est représenté dans Philadelphie. L'église de Philadelphie, c'est la sixième. Elle a peu de force, mais elle n'a pas renié son nom. Il y a un reste dans l'église. Elle ne veut pas dire que Philadelphie, c'est une église avec un nom d'une dénomination, sont les croyants qui aiment le Seigneur Jésus et qui croient que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là au milieu d'eux et qu'ils peuvent encore réaliser la présence réelle de Jésus. Ils n'ont pas renié son nom. Et puis, ce qui les caractérise, c'est qu'ils attendent le Seigneur. « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Puis, il est parlé des vainqueurs, celui qui vaincra. « Je connais tes œuvres. Voici, tu as peu de force, peu de puissance. » Ce n'est pas une église puissante. Or, nous, aujourd'hui, on voudrait toujours être une église puissante. Mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je viens bientôt. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Et puis ensuite, après Philadelphie, qu'est-ce qui reste? Laodicée. Laodicée, c'est l'Église qui dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Alors qu'elle ne sait pas qu'elle est pauvre, aveugle et nue. C'est la forme de la piété sans la puissance. On a toutes les formes, on se dit chrétien, mais c'est comme les vierges folles. On a la connaissance, peut-être. Et alors, là encore, le témoignage dans Philadelphie, dans Laodicée est un témoignage surtout individuel. Et le Seigneur fait une promesse pour l'individu. Quand il dit, je me tiens à la porte, verset 20 du chapitre 3, et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Eh bien voilà, j'ai essayé de vous montrer que, comme il y a eu déclin en Israël, il y a déclin dans l'Église. Et nous sommes dans ces temps, comme au temps des juges. Chacun fait ce qui est bon à ses yeux. De sorte que le livre de Ruth nous révèle au fond aussi bien ce qui peut se passer dans une âme que ce qui peut se passer pour Israël, que ce qui peut se passer pour l'Église. Mais, en revenant à ce livre de Ruth, donc, Élimélec représente d'abord le peuple d'Israël qui, à cause des difficultés, s'en va dans le monde. Et il fait les expériences douloureuses que nous avons vues prophétiquement dans l'histoire d'Israël. Mais il y a un résidu. Naomi revient, et elle revient avec qui? Avec une étrangère. Et Ruth est une image de quoi? De l'Église. L'Église est, au fond, vient essentiellement du paganisme, elle est reçue et elle devient l'épouse de qui? De Jésus. Elle est l'épouse de Christ, comme Ruth est devenue l'épouse de celui qui annonçait le Christ, Boaz. Mais le fils qui est né de Ruth et de Boaz, c'est le fils au fond de qui? D'Élimélec, en quelque sorte. De sorte qu'il y a espoir pour Israël. Israël ne va pas se convertir à l'Église, parce que l'Église est en déclin, et l'Église ne va pas convertir le monde, ça c'est clair. Quand on vous dit que le Seigneur ne peut pas revenir parce que le monde n'est pas encore converti, mais que par l'Évangile, eh bien, il se convertira, non. L'Église est un peuple céleste, tandis qu'Israël est un peuple terrestre. Et vous devez bien comprendre cela. Dieu a un peuple terrestre, mais il a aussi un peuple céleste. Et ce peuple céleste, le Seigneur va le ravir auprès de lui. et cela peut arriver très subitement. Et nous sommes dans les derniers jours. Et nous devons être prêts. Et alors, qu'est-ce qui arrivera? Eh bien, Dieu, qui l'avait dit, va reprendre ses relations avec son peuple. Parce que les chrétiens, qui auraient dû apporter Jésus-Christ au monde, et un Christ vraiment vivant, nous avons tous manqué, nous avons tous failli. Nous avons la forme. Nous sommes que, bien souvent, comme de la balle, et non plus le froment. Et alors, comment voulez-vous que les Juifs se convertissent? C'est un grand scandale. Mais ce que vous voyez, c'est que, oui ou non, est-ce que Dieu fait revenir son peuple en Israël? Oui. Mais il est encore dans l'incrédulité, il n'a pas encore reconnu Jésus. Et comment voulez-vous qu'il reconnaisse Jésus? Par l'Église. C'est l'Église qui a persécuté. Qui est-ce qui a fait l'Inquisition? C'est l'Église qui a brûlé les Juifs. Et les croisades, qu'est-ce qui les a fait? L'Église. Alors comment voulez-vous que l'Église convertisse les musulmans? On a massacré les musulmans. Au nom de qui? Du Christ, au nom de la croix. Les croisés. C'est pour ça, hein, ça ne suffit pas de porter une croix. Il faut l'avoir dans son cœur. Il faut être des crucifiés avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors méditez là-dessus. Le Seigneur reprendra ses relations avec son peuple. Le témoignage de l'Église touche à sa fin. Et quand l'Église, dont l'espérance est une espérance céleste, sera ravie, selon l'Écriture, subitement auprès de lui, auprès de Jésus, et nous pensons qu'à ce moment-là, il y aura une grande action angélique dans toute la création pour l'enlèvement des croyants, enlèvement qui, selon l'Écriture, ne doit pas être vu par le monde incrédule qui ne croit pas, mais tout à coup, ce que le monde verra, c'est quoi? Le vide. Ça sera terrible d'abord, hein. Mais il y aura des places à repourvoir. Tout à coup, tous ces croyants qui occupaient des positions parce qu'il fallait bien travailler sur la terre, sont plus là. Ben, ça va aider pour le chômage. Ces gens qui sont loin, bon, on va vite se consoler. Surtout maintenant, il y a plus de mariage, ou enfin, le mariage, c'est pas grand-chose. Mais il y aura toujours des partenaires. Alors le monde va continuer. Et puis, toutes les fortunes des chrétiens, ça va financer l'État. Mais alors, c'est ce que j'ai dit souvent, est-ce qu'on va financer l'Antichrist? Celui qui vient avant le Christ et qui sera contre le Christ. Vous savez, on est dans un temps extraordinaire. Si tout à coup, quelqu'un arrive à Jérusalem en hélicoptère, puis qui dit, je suis Jésus, je suis le Seigneur. Bien, qu'est-ce qu'il est dit des Juifs? Jésus l'a dit. Moi, je suis venu au nom de mon Père. Quand il en viendra un autre, en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Israël est maintenant dans une situation terrible, et partout dans le monde, on attend un homme. On attend quelqu'un qui prenne en main les rênes du monde. Puis il viendra. Il est certainement déjà né, bien sûr, parce que il est dit qu'à la fin des temps, l'œuvre sera abrégée. Alors, Israël le sait, ils vont au-devant de grandes persécutions, mais ils ne croient pas encore au Seigneur. Et surtout aussi, bien souvent à cause des chrétiens. Mais, par l'épreuve qu'ils vont traverser, qui est appelée la grande tribulation, le Seigneur va les préparer et
tout à coup, une révélation leur sera donnée, non pas par l'Église, qui sera loin. Il y aura toujours une Église, hein, mais la fausse Église, l'Église mondaine, l'Église adultère, l'Église qui est vraiment en même le mélange du monde, qui sera assise sur la bête, sur le pouvoir. Oui, il y aura toujours la fausse Église. Mais ceux qui voudront rechercher le Seigneur, et je pense que l'enlèvement de l'Église va amener bien des personnes, et spécialement chez les Juifs, à croire ce que la Bible disait. Et alors, on va consulter de plus en plus la Bible. Et ce qui me frappe quand je vais en Israël, c'est que maintenant, ils n'ont pas seulement l'Ancien Testament, mais avec Chouraki, ils ont le Nouveau Testament, et ils disent, c'est notre patrimoine autant que l'Ancien Testament. Et déjà, seulement dans l'Ancien Testament, il est dit que le jour viendra où Israël, dans sa tribulation, étant environné, d'abord, les nations vont aider Israël, tout d'un coup. Et vous voyez qu'il y a déjà des puissances qui aident Israël, qui permettent que Israël subsiste. Mais Israël fera alliance avec les nations pour pouvoir subsister. Et c'est une alliance qui est dit qu'ils font avec la mort. C'est une alliance faite avec la mort. C'est pas la bonne alliance, ça. Ils s'allieront aux nations pour que l'État puisse, Israël puisse exister. Mais au bout d'une demi-semaine d'année, c'est-à-dire de 3 ans et demi, cette alliance sera rompue, et vous savez comment on rompt les alliances aujourd'hui, et une terrible persécution viendra sur eux. C'est l'heure de l'épreuve qui doit venir sur la terre habitée tout entière, pas seulement sur Israël, mais sur la terre habitée tout entière. Et alors, l'Égypte étant de nouveau persécutée, se tourneront vers le ciel, et il est dit, ils regarderont à celui qu'ils auront percé. Ils se lamenteront chaque famille à part, comme on pleure sur un fils unique. C'est le fils unique de qui ? De Dieu. Et comme on se lamente sur un premier-né, c'est le premier-né de qui ? De Marie. C'est tout ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Alors, toutes ces choses vont avoir leur accomplissement. Et le Seigneur, alors, revient en gloire, mais dans sa plénitude, il aura son épouse avec lui à ses côtés. C'est le Christ total, tête et corps réunis. Vous êtes le corps de Christ. De sorte que, quand Jésus revient, il revient avec les siens. Alors, pour revenir avec les siens, il a dû les prendre avant. Les morts en Christ ressuscitent premièrement, puis nous les vivants qui demeurons, eh bien nous sommes transmués en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés et nous nous en irons avec les ressuscités sur les nuées du ciel pour rencontrer le Seigneur qui vient seulement sur les nuées à notre rencontre et nous introduit dans les aimables demeures de la maison du Père où nous comparaissons devant le tribunal de Christ pour être qualifiés pour régner avec lui. Mais ce règne partira de quel lieu ? Du pays d'Israël, où il est venu une première fois et où il a été crucifié, mais où il revient une seconde fois, il pose ses pieds sur la montagne des Oliviers, d'où il était parti. Ça colle, mes amis. C'est la parole de Dieu. Eh bien, que le Seigneur vous donne de voir en Obed cette espérance aussi que nous avons pour Israël et un Élimélec en quelque sorte ressuscité. Le peuple d'Israël a été mis de côté, mais il n'a pas été rejeté. Et nous terminons par ce que nous lisons dans Romains 11, parlant d'Israël. Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées Et si toi, qui étais un olivier sauvage, ce sont les païens, nous, a été hanté au milieu d'elle, et devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches, donc contre Israël. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été arrachées, Israël, afin que je fusse hanté. Bien, elles ont été arrachées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu es debout par la foi. Mais est-ce qu'il y a la foi, fils ? Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Si en effet Dieu n'a pas épargné les branches, qui sont telles selon la nature, c'est-à-dire les Juifs, qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité envers ceux qui sont tombés, la bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans cette bonté. Puisqu'autrement, toi aussi, tu seras coupé. Et eux aussi. S'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Car si toi tu as été coupé de l'olivier, qui selon la nature était sauvage, et a été hanté contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui en sont selon la nature seront-ils hantés sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'un endurcissement total, non, partiel, est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Donc Dieu fait grâce maintenant encore aux nations. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera Jacob de l'impiété. Et un jour j'étais à Jérusalem, et puis j'étais du temps de Menahem Begin, le président, et je l'ai entendu dire cette parole, voyez-vous, le salut pour Israël ne viendra que du Messie. J'ai entendu de mes propres oreilles. Le salut ne viendra, et il citait cette parole, le libérateur viendra de Sion. Alors on est assez bouleversé, il y a une préparation. Et c'est là l'alliance de ma part pour eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis. Mais pourquoi ? À cause de vous. Vous comprenez ? Alors il faut que nous soyons ôtés. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien aimés à cause des pères. Vous croyez que Dieu a renié Abraham ? Isaac, Jacob, tous ces noms que j'ai essayé de vous rappeler chaque matin, j'espère que vous avez compris que c'était lié à tout. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Car comme vous, vous avez été autrefois désobéissants à Dieu et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéissance de ceux-ci, de même ceux-ci aussi ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde, afin qu'eux aussi deviennent des objets de miséricorde. Car Dieu a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Puis alors, ces versets qui finissent bien, aux profondeurs des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Pour entrer dans ces profondeurs, il faut le Saint-Esprit. Que ces jugements sont insondables, et ses voies introuvables. On n'aurait pas pensé ça, nous. Hein? Car qui a connu la pensée du Seigneur ? On n'aurait pas pensé que Ruth pourrait être sauvée. Hein? Que Ruth pourrait être accueillie d'une façon pareille en allant en Israël. Eh bien, elle a été sauvée. Et Dieu a sauvé les païens. Il en a formé l'Église. Car qui a connu la pensée du Seigneur ? Ou qui a été son conseiller ? Ou qui lui a donné le premier lui sera rendu, car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses, à lui soit la gloire éternellement. Dieu notre Père, nous voulons te demander que, en cette fin de camp, tu donnes à chacun de nous le désir de mieux lire ta parole et de voir les choses que nous n'y avions pas vues, d'entendre les choses que nous n'avions pas entendues, de les comprendre et d'être de ces bienheureux qui mettent cette parole en pratique. Révèle-nous que l'Église, la vraie Église, est un peuple céleste et que nous devons nous préparer à quitter cette terre, non pas nécessairement par la mort, mais parce que tu viens et que tu accompliras toutes tes promesses. Comme Boaz le disait à Ruth, tu feras tout ce qui est nécessaire. Et nous te bénissons pour ces journées où nous avons pu nous pencher sur ta parole, et nous repartons maintenant avec ta parole. Et nous te demandons de ne pas nous laisser détourner de ce qui est écrit et que nous n'acceptions dans nos cœurs que ce que nous dit ta parole et non pas les interprétations des uns et des autres. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la toute-puissance du Saint-Esprit, que nous te demandons de ne pas contrister. Pour la gloire de Jésus. Amen.